Alors, le dernier thème que j'aimerais aborder avec vous, c'est plutôt un thème d'actualité, et qui est intitulé crise de l'islam et appel à la réforme, ou appel au pluriel, appel à la réforme. Vous connaissez les gens qu'on voit ici, sur ce... Ouais, vous connaissez... Ouais, lui, les autres, c'est plus difficile. Ça, c'est Hassan el-Banna, c'est son grand-père. Grand-père maternel, c'est le fondateur des Frères musulmans. Ça, c'est Hamal al-Banna. C'est le frère de Hassan. Et lui, il est vivant. C'est le frère cadet. Il est vivant aujourd'hui. Il vit en Égypte. Ça, c'est Mohamed Arkoun. C'est un savant musulman, mais très libéral dans son esprit. Puis ça, c'est Tarek Oubrou. Il était un islamiste pur et dur. Il est imam de la mosquée de Bordeaux, et puis il a mis beaucoup d'eau dans son vin, si on peut dire cela d'un musulman. C'est-à-dire que il a développé le concept de charia de la minorité. C'est-à-dire, voilà, on est musulman, nous sommes une minorité dans le pays, donc nous allons vivre notre foi dans le respect des lois du pays. Voilà ce qu'il entend. Oui. Alors, est-ce qu'il y a en tant que religion une crise de l'islam? Ça, c'est le sujet. Il y a une chose qui est évidente, c'est que le monde arabo-musulman, lui, il est politiquement en crise. Mais est-ce qu'il faut pour autant. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de lumière ici? Est-ce qu'il faut pour autant parler de crise de l'islam? Ouais, ça va. Ouais, super, c'est bien. Merci beaucoup. Personnellement, je pense que dans la mesure où l'islam a toujours une dimension politique, qu'on le veuille ou non, dans la mesure où certains légitiment leurs actions violentes ou non violentes en invoquant l'islam, alors que d'autres cherchent plutôt à libérer la société de l'emprise de l'islam, je pense qu'on est assez fondé à parler de crise de l'islam aujourd'hui, l'islam en tant que religion. Mais là où en Occident, on a tendance à établir une relation de cause à effet hein, entre ce qu'une religion enseigne et les formes qu'une société prend, eh bien, qu'est-ce que vous entendez de la part de la plupart des musulmans? Ben, vous entendez que il n'y a rien de mieux que l'islam. C'est en tout cas la réponse officielle. Il n'y a rien de mieux que l'islam. Et les musulmans sont le meilleur des peuples. Ça, c'est le Coran qui le dit. Tous ceux qui suivent l'islam font partie du meilleur des peuples. Seulement lorsque vous allez visiter des pays musulmans ou lorsque vous vous baladez sur Internet ou parcourez un petit peu les médias, eh bien, vous vous rendez compte que les choses ne sont pas aussi simples et que ce meilleur des peuples et cette meilleure des religions semblent avoir quelques lacunes, pour le moins. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cette contradiction entre ce qu'affirment les musulmans d'un côté et la réalité dans les pays musulmans? Nous, on a notre idée, évidemment, là-dessus, mais je pense que c'est beaucoup plus intéressant de commencer à se demander, mais quelle idée les musulmans ou les arabo-musulmans ont à propos de cette situation? Comment est-ce qu'ils l'interprètent? Donc, dans un premier temps, je vous suggère qu'on discute de la crise du monde arabo-musulman, mais expliquée du point de vue des musulmans, des arabo-musulmans. La première explication, et une des plus populaires, c'est qu'il y a eu dans le passé et il y a aujourd'hui complot. Il y a un complot contre l'islam et contre le monde musulman. Il y a un journaliste qui s'appelle Ali Adib, journaliste libanais, qui sur son site d'information a écrit ceci. Si vous interrogez les Arabes sur la cause de tous leurs malheurs, beaucoup vous répondront par un mot: complot. La théorie du complot est devenue un trait de la mentalité arabe. Théorie confortable qui vous dispense de faire l'effort de réfléchir aux causalités comme de faire votre autocritique. Elle permet au contraire de se considérer comme une victime et de croire que tout irait bien sans les manigances de l'ennemi. Juste une petite parenthèse. Il n'y a pas que les sociétés arabo-musulmanes qui sont sensibles aux théories du complot. Nous aussi, hein. Vous avez déjà entendu parler de Eurabia, une collusion entre les leaders de l'Occident et les leaders des pays arabes, et les leaders occidentaux sont en train de se faire rouler dans la farine par les leaders arabes qui vont un jour prendre complètement le contrôle de l'Europe. Ça, c'est Eurabia. Les Américains, j'ai lu plusieurs articles, le titre est déjà évocateur, les Américains champions de la conspiration. Le virus de la théorie du complot touche plus d'un Américain sur deux. Donc je ferme la parenthèse. Ce n'est pas typiquement arabe de croire aux théories du complot. On est tous susceptibles à ce niveau-là. Mais enfin, au Moyen-Orient, dans les pays arabo-musulmans, c'est une explication à laquelle on recourt constamment de manière très large. Alors, cet auteur, il donne plusieurs exemples de théories du complot. Premier complot supposé, les protocoles des sages de Sion. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce document. C'est un document qui a été créé par la police secrète tsariste en 1901 pour légitimer toute sa propagande antisémite. Donc ils ont fabriqué un document supposé avoir été écrit par des leaders juifs qui parlent de mettre la main sur le monde entier, de contrôler le monde entier. Donc vous connaissez cette théorie, les juifs contrôlent, ils sont dans la finance, ils sont dans l'industrie, etc. Ils contrôlent tout. Donc ça c'est la théorie du complot, le protocole, ça vient du protocole des sages de Sion. Il y a des intellectuels arabes qui ont très bien compris que c'était un faux et qui ont écrit là-dessus. Mais au niveau populaire, les gens ne changent pas d'avis. Ils continuent de considérer que le protocole des sages de Sion décrit une réalité et même un mouvement politique comme le Hamas. Ils prennent cela, ils prennent le protocole des sages de Sion comme un document authentique, ce qui influence évidemment leur rapport avec Israël. Deuxième complot supposé, 11 septembre 2001. Les auteurs de ces attentats, ils sont clairement connus. Ben Laden a lui-même revendiqué ces attentats. Mais il y a des gens dans les pays arabes et même jusqu'en Indonésie qui disent « Non, ça c'est du bluff. C'est les Américains ou c'est les Israéliens qui ont créé cela pour justifier leur guerre contre les pays arabes. » Le New York Times a fait une étude pour voir qui étaient les victimes des attentats du 11 septembre 2001 et se sont rendu compte que 15% des victimes étaient juives. Parce qu'on disait, ah oui, mais avant le 11 septembre, toute la communauté juive a été avertie et personne n'est allé au travail. Vous voyez, ça prouve que c'est une conspiration des juifs contre l'islam. Mais quand on y regarde de près, il n'y a rien de vrai. Pure invention. Troisième complot supposé, les printemps arabes. La vague révolutionnaire qui a déferlé sur la Tunisie et l'Égypte et d'autres pays arabes aurait pour origine, toujours selon ceux qui voient un complot, le concept de chaos créateur. Ça, c'était un des concepts de l'administration Bush. C'est-à-dire que le choc de la guerre va forcer les sociétés à se réorganiser. C'est comme quand vous donnez un coup de pied dans une fourmilière, après vous voyez toutes les fourmis qui se mettent au travail pour reconstruire la fourmilière. C'est le concept du choc créateur, ou du chaos créateur. Mais la question qu'on peut poser à ceux qui avancent cette idée de complot, c'est mais quel intérêt véritable avaient les Occidentaux à déboulonner des gens comme Ben Ali ou comme Moubarak, qui en fait étaient des alliés objectifs de l'Occident, parce qu'ils empêchaient les islamistes de faire ce qu'ils voulaient et ils étaient un certain frein à l'immigration sauvage, en tout cas au niveau de la Tunisie. Quel intérêt? Et vous vous en souvenez certainement, en tout cas c'était clair avec le gouvernement français, quand le printemps a éclaté en Tunisie, le gouvernement français il a été pris totalement par surprise. Il y avait des gens qui se trouvaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Totalement pris par surprise. Ce qui montre bien que c'est simplement une théorie du complot. Donc ça, c'est une première explication au malheur du monde arabe, d'un point de vue arabe. Maintenant, il y a des choses qui sont un petit peu plus, qui ont un petit peu plus de consistance. Et les choses qui ont un peu plus de consistance, c'est l'idée que l'Occident a été dans une démarche impérialiste vis-à-vis des pays arabes. On peut parler d'impérialisme occidental dans les pays du Moyen-Orient. Et cet impérialisme occidental, il a pris deux formes. Il y a eu la forme du colonialisme. Et vous savez à quand ça remonte ? Le premier, ce qui a été un petit peu le premier pas vers la colonisation, ça a été l'expédition de Napoléon en Égypte, 1798-1801. Napoléon, il a emmené avec ses troupes 150 savants pour étudier les trésors de l'Égypte. Mais ça, ça a donné l'impulsion à l'idée que l'Occident peut aller au Moyen-Orient pour étudier et contrôler et maîtriser en fait tout ce monde. Évidemment que la jeunesse égyptienne s'est rendue compte au contact des savants qui accompagnaient Napoléon. Ils ont pris conscience de leur isolement culturel et aussi du fait qu'ils étaient, par rapport à ces gens, ils étaient en arrière, en quelque sorte. Ils étaient anachroniques, ils avaient une culture anachronique. Et ce mouvement de colonisation, il s'est poursuivi au XIXe siècle. Les puissances coloniales, en tête la Grande-Bretagne et la France, ont pris le contrôle des sociétés musulmanes, du Moyen-Orient et du Maghreb. Et il y a une chose, moi, que je n'avais pas compris. Mais en fait, ces grandes puissances, elles étaient inspirées par la vision civilisatrice que leur ont communiqué les philosophes des Lumières. Nous avons la lumière. Il faut que nous éclairions le reste du monde. C'était une des motivations, une motivation civilisatrice. On va aller dans ces peuples et puis on va leur enseigner ce qu'est un vrai gouvernement, une vraie culture, comment il faut penser, etc. Alors évidemment qu'avec une telle assurance, on pourrait dire aujourd'hui une certaine arrogance, nous avons les réponses. On sait quelles sont les vraies questions, les questions importantes, et on s'est donné des réponses à ces questions. Donc ils sont arrivés dans cet état d'esprit. Et évidemment que ces grandes puissances ont perturbé les structures religieuses, sociales, politiques, traditionnelles de ces pays. Et puis, indirectement, ils ont inculqué à l'indigène un sens d'infériorité. Parce que l'indigène, il n'était pas à la hauteur, culturellement, intellectuellement, ou en tout cas, du point de vue de son éducation. Pardon ? On en reparlera. Seulement, 50 ans après les indépendances, c'est-à-dire dans les années des indépendances, grandes années des indépendances, c'est 50-60, hein, 1950-60, 50 ans ou un peu plus après, on peut se demander pourquoi est-ce que beaucoup de pays arabo-musulmans ne se sont pas affranchis de leur position de colonisé, en quelque sorte, bien qu'ils soient indépendants. Et là, la réponse, elle est simple. Dans l'opinion arabe, eh bien, l'Occident continue d'imposer sa vision des choses, sa puissance politique, sa puissance économique, militaire, à travers des situations qui lui sont favorables, comme par exemple le deal que les États-Unis ont passé avec l'Arabie saoudite en 1945. L'Amérique a dit « Nous vous accordons la protection militaire, vous nous laissez pomper votre pétrole. » Et ça a donné accès à tout le Moyen-Orient et une capacité d'influencer la politique du Moyen-Orient et de chercher, pour les États-Unis, de chercher leurs intérêts et aussi ceux de l'Arabie saoudite, dans une certaine mesure. Et puis, ce n'est pas seulement à travers cela, mais depuis le monde arabe, on voit que les valeurs de l'Occident inondent les valeurs de l'Occident, les valeurs culturelles, inondent le monde musulman, des valeurs qui sont souvent incompatibles avec l'islam, à travers les productions audiovisuelles, vous savez, tous les grands films, toutes les chaînes de télévision, etc., certaines peuvent être captées, ou bien simplement c'est des programmes qui sont vendus ou des films. à travers les réseaux sociaux, c'est aussi un moyen d'influencer à travers les moteurs de recherche, à travers les chaînes de fast-food. Tout ça, c'est l'image de l'Occident qui vient, qui s'impose. En tout cas, c'est perçu comme cela par certains dans le monde arabo-musulman. Donc ça, c'est pour le, en quelque sorte, le colonialisme version dure et version soft. Mais il y a un autre aspect de l'impérialisme occidental qui est, et qui est moins connu et qu'on appelle l'orientalisme. Alors le terme orientalisme, il a plusieurs significations. Il a une première signification qui décrit l'engouement des occidentaux pour le monde oriental, spécialement au XIXe siècle. Vous avez beaucoup d'artistes, d'écrivains et de peintres qui ont été fascinés par l'Orient, qui sont allés peindre en Orient. Vous avez des gens comme Delacroix. Delacroix, il a fait des scènes de bataille très somptueuses, mais on voit que ça se passe quelque part au Moyen-Orient. Ingres aussi a été influencé, Matisse plus récemment. Et puis chez les écrivains, vous avez des écrivains français comme Nerval, Flaubert, Chateaubriand. Il y a des auteurs britanniques aussi comme Byron ou T.S. Lawrence ou un auteur allemand comme Goethe. Tous, ils ont été fascinés par l'Orient. Ça, c'est le premier sens du terme orientalisme. Mais il y a un deuxième sens qui fait plus problème pour les gens du monde arabo-musulman, c'est le sens qu'a développé les spécialistes de l'Orient, ceux qui ont étudié l'Orient, la culture, l'anthropologie, etc. Pourquoi est-ce que ça fait problème? Parce que ces gens, ou en tout cas ceux qui les ont suivis, ont développé une vision de l'oriental très schématique et caricaturale. Où l'oriental, c'est quelqu'un qui est forcément sensuel, violent, fanatique, qui est religieux, et qui comprend rien d'autre que le langage de la force. Ça, ce sont certains clichés que nous, on a encore. Mais quand vous commencez de connaître un peu plus profondément les orientés, vous voyez qu'ils ne correspondent pas tous à ce cliché. Donc, il y a eu un processus d'essentialisation de l'Orient, c'est-à-dire on ramène l'Orient à quelques notions très simples, basiques, puis on dit c'est ça l'Orient. Alors, il y a quelqu'un qui s'est vraiment insurgé la contre, qui s'appelle Edward Said. C'était un spécialiste de littérature comparée. Il est américain, arabo-américain. En fait, c'est un chrétien palestinien qui a été vivre aux États-Unis, qui a pu faire une carrière universitaire aux États-Unis. En 1978, il a fait paraître un livre intitulé « L'orientalisme ». Et là, il étudie sur au moins la littérature occidentale, sur au moins 3 ou 4 siècles, et comment cette littérature a été amenée à donner une certaine vision, une certaine compréhension de l'Orient, qu'il appelle l'orientalisme. Et pour lui, il est absolument outré. En tant qu'universitaire, il dit « mais cette description-là ne correspond absolument pas à la réalité, à la complexité de l'Orient ». Et donc on vend aux Occidentaux une certaine idée très schématique, caricaturale de l'Orient, mais la réalité c'est tout autre. Et il a beaucoup lutté contre l'orientalisme. Alors, à ces péchés, ces péchés de l'Occident, colonialisme, orientalisme, il y a d'autres choses qui se sont ajoutées pour expliquer le sentiment de malheur dans lequel beaucoup d'arabo-musulmans ont le sentiment de se trouver. Il y a eu d'autres événements très traumatiques qui se sont produits. Et je vais en énumérer 4, qui sont tous des événements historiques. Le premier de ces événements traumatiques, ça a été l'abolition du califat ottoman par Atatürk. En 1924. Avant que ça arrive, parce que ça c'est franchement une montagne qui est jetée dans la mer, dire tout à coup la Turquie n'est plus un califat musulman, c'est une société, c'est une république laïque, ça ne peut pas arriver en un jour. En réalité, c'est le résultat d'un lent processus qui avait commencé au moins un siècle avant, où les intellectuels du Moyen-Orient et de Turquie était de plus en plus tourné vers l'Occident, vers l'Europe, et était fasciné, impressionné, influencé par les auteurs européens, les philosophes, les écrivains, etc. Et aussi la réflexion au niveau du droit et du droit politique. Moi, j'ai oublié toutes mes images, là. 11 septembre, complot printemps arabe, l'impérialisme. Voilà. Ah oui, ça, il faut... Voilà, un petit peu, quelques-unes des œuvres de l'orientalisme typique. Alors, on en est à les traumatismes qui ont secoué les nations arabes au XXe siècle. Donc, j'ai mentionné l'abolition du califat ottoman. Lorsque le califat ottoman a été aboli, ça a provoqué une onde de choc énorme dont on n'a pas idée dans tout le monde arabo-musulman. Parce que bien que les Turcs ne soient pas arabes, et ça c'est très important, hein, ils ne sont pas arabes, mais néanmoins, à cause de leur position dominante dans le monde dans le passé, souvenez-vous de l'Empire ottoman qui a duré presque 600 ans, ils avaient une position dominante pendant longtemps, et en fait, l'Empire ottoman définissait en quelque sorte, indirectement, le sens d'identité religieuse, culturelle qu'avait le monde arabo-musulman. Et quand ça s'est écroulé, le monde arabo-musulman a été en état de crise. Crise d'identité. Qui est-ce qu'on est maintenant? Il n'y a plus de califat. Qui sommes-nous? Grosse crise. Grosse crise. Et vous savez ce qu'il y a d'absolument frappant? Aujourd'hui, il y a des gens qui sont nostalgiques du califat. Les gens de l'État islamique, ils sont terriblement nostalgiques. Ils pensent que ça vaut la peine de lutter pour rétablir le califat. Oui. Oui, c'est l'État islamique. Oui. Et puis Boko Haram voudrait faire la même chose. Non, c'est plus compliqué qu'un califat, parce que le roi du Maroc, oui, il a certains pouvoirs, mais il n'a pas tous les pouvoirs. Ce sont des monarchies, on parle de monarchie. La notion de califat, c'est un territoire... Pardon ? Bien sûr qu'il y a des ressemblances, mais la notion de califat, c'est un territoire qui accepte d'être conduit par un calife qui, dans la théorie, joint l'autorité politique et l'autorité religieuse. Je dis bien dans la théorie, parce que dans la pratique, il n'y a que Mohammed quasiment qui a vraiment réuni sur sa personne les deux fonctions. Et un califat, en principe, c'est extensible. Une royauté, en tout cas, l'Arabie saoudite, on ne parle pas d'expansion du territoire de l'Arabie saoudite. Donc, Abu Bakr al-Baghdadi, c'est lui là, l'homme. Il est une des têtes de l'État islamique. Il a fait dire par son porte-parole, le porte-parole de l'organisation, ça c'est très instructif, il a dit, il est temps que l'Oumma c'est l'ensemble des musulmans, l'Oumma. Il est temps que l'Oumma de Mohammed renaisse de ses cendres et se débarrasse de la honte et de l'humiliation. Croyants, obéissez à votre calife et soutenez votre État qui devient plus fort de jour en jour grâce à Dieu. Les mots très sensibles dans cette déclaration, c'est honte et humiliation. Ça, c'est le sentiment avec lequel beaucoup de gens vivent dans le monde arabo-musulman. La honte et l'humiliation. Mais la honte de quoi? La honte d'être sous la coupe de l'Occident. La honte de ne plus être la tête du monde. La honte de se voir dicter sa politique. La honte de voir les musulmans reculer. La honte de voir des valeurs culturelles qui n'ont rien à faire avec l'islam envahir le monde musulman. Ils ont la rage. Ceux qui sont vraiment intégristes ont la rage. Et ce qu'ils font montre qu'ils ont la rage. Ils ont la rage. Ils sont dans un combat à la vie, à la mort. Pour eux, ils voient des choses comme ça, noir-blanc. Alors, ça, c'est un des premiers traumatismes. L'abolition du califat. Il y a eu autre chose. La création de l'État d'Israël, 1948. Vous savez comment on appelle ça dans le monde arabo-musulman? La Nakba. La catastrophe. C'est une catastrophe. Et beaucoup dans le monde arabo-musulman considèrent que la création de l'État d'Israël en 1948, ça a été une manière très commode pour l'Occident de se racheter des crimes de la Shoah. Voilà. Mais au détriment de qui? Au détriment des Palestiniens. On est venu piquer le territoire des Palestiniens pour pouvoir y installer les Juifs. C'est, pas besoin d'explication, c'est un sujet tellement complexe et tellement insoluble. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a deux interprétations qui s'entremêlent par rapport à ce problème israélo-palestinien. Il y a une interprétation qui est, je dirais, simplement politique. L'État d'Israël a été créé en dépossédant les Palestiniens d'une partie de leur territoire. Donc c'est une question qui tombe sous le coup du droit international. C'est une question de géopolitique. Il y a des intérêts politiques qui sont en conflit. Et si le problème s'arrêtait là, il serait soluble. On pourrait trouver des solutions. Malheureusement, il y a une autre composante qui entre dans ce conflit, et c'est la composante religieuse. Parce que là, du point de vue musulman, Dieu a jugé l'impiété d'Israël en permettant sa dispersion dans le monde. Et maintenant, après, eh bien, les musulmans ont pris possession de ces territoires grâce à Allah. Et par conséquent, devoir admettre qu'il y a maintenant une enclave juive là au milieu, c'est une atteinte à l'intégrité territoriale de l'islam, et ça, c'est intolérable. Et pour les juifs, ils ne vont pas déménager, parce qu'eux disent « promesse d'Abraham ». Et nous, les évangéliques, on pense « promesse d'Abraham » qui se réalise. Dieu a rendu à son peuple son territoire. Vous voyez, c'est insoluble. Vous n'allez jamais mettre les gens d'accord sur cette question, parce que c'est des questions qui dépassent le rationnel. C'est au niveau de la conviction religieuse, et là, vous ne pouvez plus résoudre rien du tout. Il n'y a que Jésus qui peut résoudre. Mais humainement, et c'est comme ça que, comme Zacharie 12 le dit, Israël est une pierre pesante pour les nations. Problème insoluble, casse-tête insoluble, un sujet totalement déprimant. Quoi que vous fassiez, vous êtes dans le mur. Voilà, la Nakba. Alors, évidemment, on peut que signaler ce problème, on ne peut pas s'arrêter plus longtemps. Il y a un troisième grand traumatisme, c'est la défaite de la guerre des six jours. Et ça a été interprété comme une humiliation, mais là encore, on ne peut pas s'imaginer. Une humiliation terrible pour le monde arabe, parce que Nasser, à cette époque-là, en 66, 67, il était le leader du monde arabe. Il était le héros du monde arabe. Il était celui qui avait dit aux Égyptiens, nous allons améliorer votre sort économique. On va améliorer la vie politique. On va jeter les Juifs à la mer. Puis rien de ces promesses ne se sont réalisées. Aucune de ces promesses ne se sont réalisées. Et vous savez, Nasser, il est mort peu de temps après. Hein, peu de temps après la défaite, 2 ou 3 ans après. Il a été brisé. Brisé par cette défaite. Et les musulmans, tout le monde arabe a été sous un choc terrible. Cette petite armée israélienne, bon, soutenue par certains pays occidentaux, cette petite armée israélienne qui défait l'armée égyptienne, beaucoup plus armée qu'elle, ils ont vraiment porté le deuil après. Après cette défaite, ils étaient en deuil, vraiment, sérieusement. Et ça s'est traduit dans les pays arabes par des réactions, nationalisme exacerbé, et puis surtout radicalisation de l'islam. Parce que les frères musulmans ont dit, Nasser était très hostile aux frères musulmans, il a fait emprisonner leur maître à penser, Saïd Qutb. Hassan el-Banna a été assassiné. avant Nasser, bien avant Nasser. Mais il y avait un antagonisme très fort entre Nasser et les frères musulmans. Et les frères musulmans, après la défaite de Nasser, ils ont eu beau jeu de dire aux populations de la base, les gens les plus pauvres, vous voyez, ce que Nasser vous a promis, c'est du vent. Nous, on a la vraie chose. Nous, on peut changer votre destin. Nous, on est déjà là à travailler dans vos quartiers pour vous aider, pour améliorer le sort des pauvres, pour assurer l'éducation, pour vous donner à manger. C'est nous que vous devez suivre. Et depuis les années 70, ça a finalement abouti à l'élection du président Morsi. Petit à petit, ils ont gagné du terrain, ils ont gagné de la popularité. Et quand le monde du vote est venu, ils ont gagné. Ils étaient beaucoup plus structurés en tant que parti que les autres. Ils ont ramassé la mise. Pas pour longtemps, parce qu'ils ont commis une grave erreur. Ils ont cru qu'ils allaient pouvoir contrôler absolument tout et faire à leur guise. Ils n'ont pas compris le jeu politique, ils n'ont pas développé un sens du compromis et ils se sont fait jeter. Et puis il y a un autre traumatisme, guerre en Irak, invasion de l'Afghanistan. Et là, des gens comme Ben Laden se sont beaucoup fâchés. Ben Laden était en guerre contre les États-Unis. Al-Qaïda menait la guerre contre les États-Unis. C'était un islam déterritorialisé. C'était un islam international qui voulait faire tomber les États-Unis, la puissance industrielle et militaire. Et le fait que à partir des années 2000, il y a eu la guerre en Irak et puis l'invasion de l'Afghanistan, les armées de la coalition occidentale ont été perçues comme des armées croisées par Ben Laden et les autres. Et d'où la haine, d'où l'hostilité viscérale, profonde, violente d'Al-Qaïda contre les États-Unis. Et ça a conduit une des raisons des attentats contre les tours jumelles. C'est cette présence de la coalition d'armées non musulmanes sur territoire musulman qui a amené cette réaction extrême. Alors si on résume la pensée qui semble être dominante dans le monde arabo-musulman, ça semble être que, bon, comme je l'ai dit, l'islam est la meilleure des religions, les musulmans sont le meilleur des peuples, et pourtant on voit ces sociétés souffrir de beaucoup de maux, et ça, du point de vue des arabo-musulmans, ça ne peut avoir qu'une explication, c'est qu'il y a des gens qui nous veulent du mal. De l'extérieur, il y a des gens qui nous veulent du mal, qui sont malveillants, et le monde musulman est simplement victime de l'Occident. Ça, c'est le point de vue musulman, ou arabo-musulman. Maintenant, on va adopter un autre point de vue, un autre angle de réflexion, et on va se poser la question, ou on va aborder la question de la crise du monde arabo-musulman, expliquée d'un point de vue occidental. Pas simplement par des occidentaux nécessairement, mais par des Arabes qui vivent en Occident et qui peuvent avoir la même analyse. Il y a plusieurs facteurs, des problèmes qui sont absolument récurrents dans le monde arabo-musulman et qu'il y a des intellectuels arabes qui ont très bien identifié. Le premier de ces problèmes, c'est les affrontements internes qui existent, qui déchirent le monde arabo-musulman. Alors il y a déjà un premier affrontement entre sunnites et chiites. Je n'ai pas eu l'occasion d'en parler beaucoup en détail tout à l'heure, mais ce différent, il remonte à un problème de succession. Vous savez que Ali n'a pas été nommé comme le premier calife, et puis quand il a été élu comme quatrième calife, il n'a pas fait très long. Il a été marginalisé et finalement assassiné. Et il y a une inversion des sunnites et des chiites, mais il faut faire très attention, parce qu'à Genève, par exemple, les chiites, il y a une association chiite qui est membre de l'association qui regroupe toutes les autres associations musulmanes sunnites. Donc vous voyez, localement, on ne vérifie pas ce qui se passe au Moyen-Orient. Mais au Moyen-Orient, il y a vraiment un conflit entre sunnites et chiites. Et en Irak, en Syrie, en Liban, ben, ça prend aujourd'hui la forme d'affrontements fratricides, violents. Au niveau du Moyen-Orient, vous avez l'arc Iran, Irak, Hezbollah libanais, ça c'est l'arc chiite. Et puis de l'autre côté, eh bien, vous avez l'arc Arabie Saoudite, pays du Golfe, Égypte, qui est l'arc plutôt sunnite. Et ces deux arcs s'opposent, sont en position de force les uns contre les autres, rivalisent au niveau de la présence économique, de l'influence idéologique aussi. Ici, ce qu'il faut noter, c'est qu'on a moins affaire à un conflit de nature religieuse qu'à un conflit plutôt de nature politique, même si le religieux n'est jamais loin du politique en islam. Et il faut aussi dire, un élément supplémentaire pour comprendre la dynamique de ces tensions, c'est que les Perses, les Iraniens, se sentent nettement supérieurs aux Arabes, du point de vue culturel. Ils se sentent nettement supérieurs. Et d'ailleurs, ils n'ont pas nécessairement complètement tort, parce que la théologie sunnite, à un moment donné, s'est figée, on en parlera un petit peu plus tard, alors que les chiites ont gardé, jusqu'à aujourd'hui, un esprit ouvert vis-à-vis de la réflexion. Donc ils lisent beaucoup les philosophes occidentaux, etc., alors que chez les sunnites, c'est normalement... C'est tabou, on ne fait pas ça. Par conséquent, les Perses veulent, ou les Iraniens veulent peser aux frontières du monde arabe. Ils veulent dire, mais nous existons, on a des intérêts économiques, géostratégiques, etc. On est là, on existe. Évidemment que l'Arabie Saoudite, elle n'aime pas du tout ça. Et l'Arabie Saoudite, elle souhaite la chute de Assad. Parce que comme ça affaiblirait l'influence de l'Iran dans cette région. Non, ce sont des sunnites. Ouais, ce sont des sunnites. Alors, pur et dur. Hein. C'est pour ça que les Iraniens sont derrière la coalition, ils sont très contents. Voilà, ça c'est un affrontement entre sunnites et chiites, mais il y a aussi, à l'intérieur du sunnisme, il y a aussi des tensions entre les salafistes, dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein. Ce sont les musulmans rigoristes qui veulent revenir à la pratique de l'islam des premiers siècles ou des premières années de l'islam, qui, eux, veulent ramener la société sous le giron de l'islam, mais à travers l'éducation, la prédication, etc. Et puis vous avez les islamistes, de l'autre côté, qui, eux, sont intéressés à une chose, c'est le pouvoir. Ils veulent avoir les mains sur les manettes du pouvoir pour pouvoir imposer la charia. Et eux sont très habitués à l'activisme politique, et en période de disgrâce, ben, ils sont habitués aussi aux activités terroristes. Ça, c'est un premier problème. Le conflit entre sunnites et chiites, et puis le conflit entre salafistes et islamistes. Maintenant, deuxième grand problème, le rapport problématique qui existe en islam entre État et religion. Nous, on pense que c'est évident. Oui, mais parce qu'on a une longue histoire et parfois saignante hein, de relations entre l'État. Et puis, on a dépassé. Eux n'ont pas dépassé, ils sont en plein dedans. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut savoir pour comprendre pourquoi il y a ces relations problématiques entre l'État et la religion, c'est que dans le monde musulman traditionnel, Dieu est regardé comme le seul législateur légitime. Personne d'autre que Dieu n'a le droit de dicter une loi. Dans ce contexte, c'est pour ça que les frères musulmans disent « le Coran est notre constitution ». Simplement que ça ne marche pas. Ah, pas l'Israël moderne. Oui, l'Israël biblique. Oui. Oui. Mais on ne va pas faire une longue parenthèse. Mais juste ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'avec Israël, il y a toujours eu une séparation des pouvoirs. Un homme n'a jamais cumulé la royauté, la prêtrise et la prophétie. Il y a déjà à cette époque-là une répartition des pouvoirs, une division des pouvoirs. Alors que dans un califat, il y a une tendance à la concentration des pouvoirs sur une personne ou un tout petit groupe de personnes. Ce qui est déjà une configuration politique très différente. Et donc la dimension institutionnelle de l'État n'est pas comprise dans beaucoup de pays arabes. On ne comprend pas quelle est l'importance de l'État, à quoi ça sert un État, puisqu'un État ne peut pas légiférer, puisque le religieux vient avant le politique et avant l'éthique, ou en tout cas avant le politique. Et ça, c'est toute une pensée qui est façonnée justement par le concept de théocratie, parce qu'ils ont ce concept de théocratie. Par conséquent, l'éthique vient avant le politique et il y a primauté du religieux sur le politique. Et ça a plusieurs inconvénients majeurs. Avec des inconvénients très concrets. Par exemple, ça empêche la naissance d'un droit public, c'est-à-dire un droit qui est valable pour tous, qu'on soit musulman ou pas. Ça ne peut pas exister. Ça affaiblit les institutions politiques, puisque le religieux vient avant le politique, et ça a une désastreuse conséquence. C'est que comme les institutions politiques ne sont pas très solides et affirmées, eh bien les gouvernants ont tendance à adopter un comportement despotique parce qu'ils veulent rester en place. Ils ont peur que, pour des raisons religieuses, on les jette. Donc ils développent une conception du pouvoir très dure, très policière. Et puis, cette configuration permet aussi aux communautés religieuses de prendre le contrôle de certains secteurs de la vie publique, l'aide sociale, le droit de la famille, etc. Alors, dans cette situation-là, ce qui se passe, c'est qu'il y a rivalité entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique. C'est très évident en Arabie Saoudite. Vous avez les religieux, les wahhabites, qui veulent imposer leurs valeurs, leurs exigences à la famille royale des Saouds. Les Saouds, ils sont beaucoup plus business, beaucoup plus politiques. C'est ça qui les intéresse vraiment. Et alors, pour avoir la paix, ils laissent aux wahhabites prendre le contrôle, par exemple, sur l'éducation ou sur les médias. Mais c'est juste des concessions. Parce qu'en réalité, la famille des Saouds ne veut pas obéir à tous les diktats des religieux wahhabites. Mais ils sont obligés de composer. Et cette rivalité, elle se voit dans pratiquement tous les pays musulmans où il y a des partis islamistes. Les hommes engagés en politique dans les pays musulmans, quand ils voient un parti islamiste émerger, ce n'est pas une très bonne nouvelle. Parce qu'ils savent à quel genre d'adversaire ils vont avoir affaire. Et tantôt, vous avez une situation différente. Donc, tantôt, vous avez les politiques qui, en quelque sorte, prennent le contrôle des religieux et domestiquent les religieux pour qu'ils soutiennent leur travail. Ça, c'est le cas en Turquie ou en Égypte pendant longtemps, où le chef de l'université Azhar, il va aller dans le sens de ce que le gouvernement lui dit. Il va, par exemple, c'est lui qui a prononcé l'interdiction du port du voile en Égypte, à l'université. Mais ça correspond tout à fait à ce que Moubarak lui demandait. Ce n'était pas du tout les islamistes qui lui demandaient ça. Tantôt, c'est la situation inverse, comme en Iran. C'est les religieux qui prennent le pouvoir et qui se servent de la politique pour réaliser leurs objectifs religieux. De toute façon, quelle que soit la configuration, vous voyez que le religieux n'est pas loin. Oula, il est bientôt 5h30. Ceux qui doivent partir, partez sans crainte. Vous n'avez pas ma bénédiction, mais j'accepterai. Non, parce qu'on en a franchement encore pour un petit moment. Mais franchement, si vous avez quelque chose à faire, il ne faut pas hésiter à partir. Si vous souhaitez rester, vous êtes les bienvenus. Oui, je dirais au moins pour une bonne 20 minutes, 20-25 minutes. C'est pour ça que si vous devez partir, allez-y. Ouais. Autre grand problème dans les pays arabo-musulmans, c'est la question du statut personnel de l'individu. Et là, c'est là probablement que les pays arabo-musulmans souffrent le plus ou le plus immédiatement de la comparaison avec d'autres régions du monde. Parce qu'il n'y a pas de liberté religieuse effective. En dépit des articles de la constitution de ces pays qui se sont alignés sur, parce qu'ils ont signé la charte des droits de l'ONU. Donc ils ont une charte qui a l'air à peu près convenable, mais en fait elle est soumise à la charia. Oui, vous êtes libre. Vous savez qu'en islam, vous êtes libre religieusement. Vous savez en quoi consiste votre liberté? Vous êtes libre de devenir musulman. Vous n'êtes pas libre de sortir de l'islam. L'islam, c'est comme une nasse. Vous rentrez, mais après, vous ne pouvez plus sortir. C'est ça la conception. Si vous sortez, vous êtes un traître. Vous offensez pas seulement Dieu, vous offensez votre famille, votre clan, votre pays, toute l'umma. Parce que c'est un concept tribal. L'islam, à la base, est un concept tribal d'appartenance. Vous êtes musulman parce que vous appartenez à la communauté musulmane. Et quand vous devenez musulman, vous entrez dans cette communauté musulmane. Donc il n'y a pas de liberté religieuse effective, il y a une discrimination des minorités religieuses, souvent. Le statut des femmes est mineur et c'est religieusement justifié. Alors évidemment que ça suscite des réactions. Attendez, là, bon, on verra ça plus tard. Ça suscite des réactions très vives, surtout de la part des femmes, parce que les femmes sont celles qui souffrent le plus dans ce contexte-là. Et il y a des femmes qui vivent en Occident pour l'essentiel, parce que sinon, elles ne seraient plus là. Il y a beaucoup de femmes qui vivent en Occident, ou qui sont allées en Occident, qui sont venues en Occident, pour dire non, nous sommes des femmes libres, et on ne va pas vivre sous l'autorité de l'islam. On a notre foi. Elles n'abandonnent pas nécessairement la religion, hein, mais elles disent attention, la manière d'interpréter le Coran dans les pays arabes, ce n'est pas la nôtre. Hein. Nous, on croit en Mohammed et on croit en Allah, mais alors, pas. On ne veut pas vivre ce qu'on vit dans les pays arabes. Alors, la conscience de ces différents problèmes, ceux que j'ai mentionnés et puis d'autres que je n'ai pas mentionnés, eh bien, ça a amené certains penseurs arabes à se dire, mais on ne peut pas continuer comme ça. Il y a des choses qui doivent changer. Et ce qui est intéressant avec ces penseurs, c'est qu'ils rejettent toute posture victimaire. Ils disent, ce n'est pas la faute de l'Occident. C'est nous qui devons réfléchir. C'est nous qui devons assumer nos responsabilités. Et de cela est née une volonté de réformer l'islam. Alors, il y a eu différentes réformes de l'islam dans le passé. Là, vous avez un rapide survol. Malek Chebel, dans un livre qu'il a intitulé « Changer l'islam », dit que l'islam, en fait, il n'a jamais cessé de se réformer à travers l'histoire. Il s'est transformé au fil des évolutions théologiques et historiques et politiques. Et il mentionne, par exemple, du 8 au 12e siècle, vous avez des gens comme Al-Ghazali, Averroès, qui sont de grands intellectuels, des gens qui étaient beaucoup influencés par Aristote, les grands philosophes grecs, et qui ont... Averroès, il était un commentateur, sauf erreur, d'Aristote. Il a commenté tout. Et vous savez que les écrits grecs ont été transmis au Moyen-Âge européen à travers les traductions arabes. D'abord, le grec a été traduit en arabe, et après, d'arabe, ça a été retraduit, ou je ne sais pas s'ils ont... Mais en tout cas, ça a fait le circuit par l'arabe. Voilà, Ibn Taymiyyah, qui était un doctrinaire, qui a ramené les gens à des positions beaucoup plus... strict vis-à-vis de l'islam. Ibn Khaldoum, qui est considéré comme le premier sociologue, il vivait en Espagne, il a étudié les différentes cultures. C'était des esprits éclairés. Et au XIXe siècle, vous avez eu le mouvement Nahda, qui veut dire renaissance, renouveau. Et ça, ce mouvement, il illustre, en pays d'islam, la volonté de réformer l'islam Mais en développant une approche de la réalité qui soit moins religieuse, dogmatique, théologique, mais plutôt philosophique et politique. Donc ils ont pris leur distance vis-à-vis du religieux. Et la question qui travaille beaucoup de musulmans, c'est celle-là. Shakib Arslan, c'était un réformiste syrien, et il pose la question que se posent les musulmans, les arabo-musulmans. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Pourquoi est-ce qu'on est en queue du train? Alors qu'on était devant pendant tellement de siècles, alors qu'on menait le monde pendant tant de siècles, qu'est-ce qui nous est arrivé pour en être là? On va aborder maintenant donc la question des tentatives de réformer l'islam. Alors il y a des tentatives contemporaines de réforme de l'islam et on a d'abord une première approche. Schématiquement, il y a deux approches. Il y a l'approche du réformisme radical qui réunit le couple salafisme-islamisme, c'est-à-dire les radicaux religieux et les radicaux musulmans politiques. Ça fait déjà plus de 80 ans que dans le monde musulman, on se dit notre situation est due à notre infidélité vis-à-vis des enseignements de l'islam. Par conséquent, si nous voulons sortir de ce désastre, il faut que nous revenions à toute force, avec toute notre conviction, aux enseignements fondamentaux de l'islam. Par conséquent, pour ces gens, le remède, c'est réinstaurer une pratique rigoriste de l'islam et soumettre tout le monde dans la société à cette pratique rigoriste. Alors on a vu comment les islamistes en Tunisie et en Égypte ont essayé de détourner la révolution dans le sens du projet islamiste. Puis ça n'a pas marché. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc ils veulent restaurer une pratique rigoriste. Cette approche-là, elle a beaucoup de détracteurs, beaucoup de gens qui sont hostiles à cette approche, parmi les arabo-musulmans, parmi les penseurs. Je vais vous en citer quelques-uns. Il y a un Soudanais qui est professeur de droit, qui a émigré aux États-Unis, et qui dit, en fait, contrairement à ce que disent les islamistes et les salafistes, contrairement à ce qu'ils disent en cœur, il n'y a rien vers lequel un gouvernement arabe puisse retourner pour s'en inspirer. Il n'y a rien. C'est mythologique. Ces gens ont une vision mythologique du passé, de l'islam. On n'a rien de concret sur lequel s'appuyer. Je vais aller un peu vite, je ne vais pas développer sa pensée, mais il dit en fait, les gens qui veulent ramener les pays musulmans au modèle de société instauré par Mohammed, comme l'État islamique veut le faire actuellement, il dit, ces gens, ils vont droit dans le mur. Ils vont droit dans le mur. Et je crois qu'il a raison. L'État islamique va dans le mur. Ça va prendre quelques années, mais il va dans le mur. Malek Chebel dit, il est très irrité par l'attitude très sectaire, obscurantiste des salafistes et des islamistes, parce qu'il dit, en réalité, au début, l'islam était beaucoup plus ouvert au débat et à l'échange d'idées et à la confrontation d'idées. Et ces gens cherchent à nous enfermer dans une vision absolument sectaire de l'islam. Un autre, Reda Ben Kiran. J'ai oublié quelqu'un. Makram Abbes, qui dit l'idéologie islamiste ne produit que du rejet, c'est un jeune prof de philosophie politique à l'école normale supérieure de Lyon, qui étudie beaucoup les auteurs classiques de l'islam et qui dit des gens comme Hassan al-Banna, Maududi, c'était un musulman intégriste du Pakistan qui a une grande influence idéologique. Aujourd'hui encore, bien qu'il soit mort, ou Saïd Qutb, le maître à penser des frères musulmans qui est mort en prison aussi sous Nasser, il dit, ces gens, ils rejettent tout, mais tout, même les classiques musulmans, tout. Ils ne veulent rien savoir, ils ne veulent rien entendre. Il n'y a que leur position, toute petite position étroite qui vaut quelque chose. Et puis, le dernier, Reda Ben Kiran, qui est un sociologue qui vit à Genève, il dit, lui, moi je ne crois pas au retour du religieux avec les salafistes et les islamistes, je n'y crois pas, parce qu'il dit, en réalité, il n'y a pas de contenu religieux authentique dans ce que proposent les islamistes. Il dit par exemple, il y a des femmes qui portent le voile, pas par conviction religieuse, mais parce qu'on les paye pour cela. Il dénonce l'hypocrisie, on annonce des choses, on ne pratique pas. Et puis il y a une chose qui l'ulcère complètement, il dit, la ville de la Mecque, qui est censée être un lieu de piété exemplaire, a été transformée en une ville complètement frivole. Ça, c'est une image classique de la Mecque. Mais regardez celle-là. Ça, c'est la Mecque aujourd'hui. Vous savez quelle hauteur il a, cet immeuble? 600 mètres. C'est un super mall. Un mall, c'est un centre commercial. Juste à côté de la Mecque. Et vous savez ce qui se passe actuellement? Combien de gens font le pèlerinage par année à la Mecque? 12 millions. En 2025, ils espèrent avoir 17 millions. Vous savez ce que ça représente? Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et il y a des musulmans pieux qui se lamentent parce que pour développer cette espèce de mégapole religieuse, on est en train de détruire tous les vestiges du passé. La maison dans laquelle le prophète est né, la maison de Khadija, etc. Mais pour les wahhabites, ce n'est pas un problème. Parce que pour eux, ça, c'est des objets d'idolâtrie. Et pour eux, il faut détruire. Ce n'est pas grave si on détruit. Il faut détruire, parce que ça va entraîner les gens dans l'idolâtrie si on ne le fait pas. Il y a bien des auteurs, bien de ces auteurs critiques. Ah d'ailleurs, regardez, voilà les différentes auteurs. Vous voyez le Clock Royal Tower Hotel, c'est celui dont on voyait sur l'image. Et puis il y a le Burj Khalifa, ça vous avez déjà vu le dernier à droite, vous savez que ça existe, hein. C'est à Dubaï, sauf erreur. C'est un immeuble qui monte à 828 mètres. Et puis il y a un autre de ces hommes richissimes de la péninsule arabique qui prévoit un immeuble qui va monter à 1000 mètres. C'est la course à la grandeur. Là, moi, quand je vois ça, je me dis, ça ressemble à Babylone de la Bible. Peut-être. C'est comme un type de la Babylone biblique, où on fait commerce des âmes, où on s'enrichit, où on cherche le pouvoir. Bon, c'est une interprétation. Tentative contemporaine de réforme de l'islam. Ah, mais qu'est-ce que je fais là? Moi, je retourne en arrière. Donc, il y a le réformisme libéral. Donc, on a vu le réformisme rigoriste. Maintenant, on va discuter du réformisme libéral. Le mot d'ordre, promouvoir le statut de l'individu. Voilà ce qu'ils veulent. Ils veulent que les gens puissent dire, moi j'existe, j'ai des droits et il faut que l'État reconnaisse mes droits. Et là, il y a des femmes qui sont aux avant-postes de ce combat. Comme ça, c'est une écrivaine marocaine, ça c'est Irshad Manji. C'est une femme homosexuelle qui est très vive d'esprit. Quand vous regardez des clips, ça y va, hein. Elle a des pensées hyper claires, elle sait ce qu'elle veut. Puis ça, elle est probablement très connue ici, Ayan Yassi Ali. Ces femmes, elles sont aux avant-postes. Par exemple, je ne sais pas si je vais retrouver mes notes là, mais... Ah oui, c'est un petit peu plus loin, ce ferreur. Bref, on n'a pas le temps, il faut qu'on avance, mais... Il faut aussi, disent ces gens, bon, il faut instaurer un État qui soit institutionnellement fort et qui fasse clairement la distinction entre citoyenneté et religion. Et puis, il faut promouvoir une nouvelle manière de lire le Coran. Et là, vous avez des gens comme Mohamed Harkoun ou comme Hamal Elbana ou bien comme cet homme, Moreno Al-Adjami. Ces gens, en résumé, ils disent le Coran, il faut le lire pour soi-même. Il faut le lire en réfléchissant. Et c'est le dernier, là, Moreno Al-Adjami, il dit les musulmans sont victimes d'une compréhension littéraliste du Coran. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par compréhension littéraliste? Il dit normalement, quand on parle de littéralisme, c'est qu'on revient au texte original. Or, en islam, ce n'est pas ça. Quand on parle de littéralisme, on revient à la sira, c'est-à-dire la biographie de Mohammed, on revient au hadith, les dires traditionnels de Mohammed, et on consulte les commentaires autorisés. Mais on ne lit jamais le Coran. Et ces gens disent, il faut que ça cesse. Il faut que les musulmans aient une lecture personnelle et intelligente du Coran. Et le but de tout cela, eh bien, c'est de promouvoir un nouveau vivre en société, une capacité de vivre ensemble, de faire société ensemble. Tout ça, c'est très beau. Question, est-ce que le projet des réformistes libéraux a une chance de réussir? À mon avis, il faudrait répondre, pour envisager une réponse positive, il faudrait envisager plusieurs réponses positives à plusieurs questions. Est-ce qu'il y a une autorité religieuse qui fasse consensus dans le monde musulman pour être le fer de lance de ce réformisme? La réponse, c'est non. Ça n'existe pas. Il n'y a pas dans le monde musulman de concile. Et d'ailleurs, les conciles de l'Église, ils n'ont jamais réussi à parfaitement protéger l'unité de l'Église. Donc, la réponse, elle est non. Est-ce que les tensions au sein du monde musulman sont prêtes de trouver leur dénouement? Non. Récemment, j'ai entendu une journaliste qui revenait de Syrie. Elle a dit « On est parti pour 50 ans de guerre. » Le Coran et la Sunna peuvent-ils être de véritables sources de renouveau pour l'islam? Personnellement, je ne le crois pas. C'est-à-dire, les réformistes radicaux, ils disent « Oui, oui, bien sûr !» Mais les réformistes libéraux, ils disent « Non, non, non. Le renouveau, il veut venir des sciences humaines. Psychologie, histoire, sociologie, philosophie, c'est là qu'on doit aller chercher les éléments qui vont permettre le renouveau de l'islam. La sunna, c'est la tradition du prophète. C'est la sunna, ça comprend les hadiths. Alors, remarque, on va terminer bientôt. Quand on parle d'islam, il y a de possibles réformes locales. Mais il y a, à mon avis, une impossible transformation de l'islam. Parce que l'islam, c'est un système. Ah, voilà. Vous êtes... Ouais, le gigot est cuit. L'islam, comme le christianisme, c'est un système cohérent. Si vous commencez à enlever, c'est comme une horloge, une montre. Vous enlevez une pièce là, on va alléger un peu, on va simplifier. Après, ça ne fonctionne plus. L'islam, c'est comme le christianisme. On ne peut pas changer les pièces, intervertir. Il y a un système, il y a une cohérence. Et donc, vouloir réformer l'islam, c'est finalement arriver à plus d'islam. Il n'y a plus d'islam. Ça, c'est autre chose. C'est une philosophie humaniste ou autre chose. Donc, je vous propose ces questions, ou plutôt ces suggestions. Vous savez, après avoir fait ça, on est en danger. Nous, chrétiens, on est en danger de se dire, mais au moins nous, on a la bonne religion. Au moins, nous, on est du bon côté. Ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux de se décerner un satisfecit. On est bon, nous, au moins. On a besoin de comprendre l'état des musulmans. Ils sont dans les ténèbres. Ils sont tout ce qu'ils essayent au plan politique, historique. On voit, la route est fermée. Ils ont essayé le réformisme, ils ont essayé le socialisme, ils ont essayé le capitalisme, ils essayent le califat, ils essayent... La révolution planétaire, ça ne marche pas. Ils sont eux-mêmes dans la nasse. Et c'est pour ça qu'on a besoin de les approcher avec compassion et pas de se réjouir de leur état actuel, de grande souffrance. Ils sont en peine, ils sont en souffrance. Ils ont besoin... Là, on a besoin d'entrer en relation simple avec eux, leur rendre service, les inviter à la maison, prier pour eux, quand c'est possible, et vivre notre foi simplement en parlant de Jésus. Parce que fondamentalement, on peut avoir une certitude, c'est que Dieu en destine au salut. C'est sûr. Il les a élus de toute éternité. Il y a des musulmans appelés au salut en Jésus, c'est certain. Et il faut que nous, on en soit persuadés. Parce que sinon, on ne va pas témoigner. Voilà, on s'arrête là. Vous avez été hyper patient, fatigant. Je suis désolé, hein. C'est... Mais je pense que pour finir d'une manière cohérente avec ce que je viens de dire, c'est peut-être bien qu'une ou deux personnes prient. Pour que ça donne juste le temps à l'esprit de faire une petite pause solennelle vis-à-vis du besoin, des besoins des musulmans autour de nous. Donc, je vous invite, si une ou deux personnes veulent prier pour conclure ce temps, afin qu'on n'en reste pas juste à la connaissance, mais que Dieu mette en nous la compassion, l'amour de Jésus pour les perdus. Le prêtre sur le chemin de sur le chemin du Samaritain, j'oublie là maintenant, dans la parabole du Samaritain, Seigneur, le prêtre et le lévite ne sont pas arrêtés au bord de la route. Ils ne voulaient pas se souiller avec cet homme blessé. Le Samaritain, lui, s'est arrêté. Père, nous prions que tu nous donnes le même esprit qui est l'esprit de Jésus vis-à-vis de ceux qui sont sur la route, blessés, confus, laissé à l'abandon. Merci. Amen. Vous avez sur la table, vous en êtes rendu compte, hein, il y a de la littérature si ça peut vous rendre service, il y a des choses gratuites, il y a des choses à acquérir à prix modique, puis il y a des choses, des informations, une lettre, voilà. En tout cas, merci pour votre accueil.